franceinter.fr. La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et la machine climatique a réchauffé l'Arctique qui semble sur le point de s'emballer. Les records de température au pôle Nord explosent les uns après les autres et la glace qui fond comme jamais.
Quel avenir pour cet ours blanc sur cette banquise morcelée. En seulement 30 ans, plusieurs millions de kilomètres carrés de glace ont disparu. La surface de la banquise a reculé de 38%. Et ce phénomène s'accélère.
Et selon des météorologues danois, le mois de novembre a été 12 degrés plus chaud que les normales de saison. Un peu comme s'il faisait 30 degrés à Paris en plein mois de décembre. Bonjour Catherine Ritz.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement à Grenoble. Et puis en studio avec nous, Lorraine Lavocat. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour notre partenaire, le magazine reporter.net. Lorraine, l'année 2016, c'est vraiment l'année de tous les records dans le Grand Nord.
Et oui, triste record d'ailleurs. Mi-novembre, la température en Arctique a atteint donc un pic à moins 5 degrés Celsius, alors que la moyenne habituelle est plutôt aux alentours de moins 25 degrés. Donc ça fait 20 degrés de différence quand même. Donc comme vous le disiez, c'est un peu comme si, actuellement, sur votre thermomètre, vous voyez 30 degrés Celsius en plein mois de novembre. Donc, depuis le début de l'automne, le mercure est anormalement haut en Arctique. D'après l'Institut météorologique danois, les températures sont de 9 à 12 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et conséquence prévisible, quand le thermomètre grimpe, la banquise, elle, diminue. La glace de mer recouvre aujourd'hui environ 8,8 millions de kilomètres carrés, soit un tiers de moins que d'habitude. À la fin de l'été, l'étendue de la banquise était déjà la deuxième plus faible jamais enregistrée après celle de 2012, soit 4,14 millions de kilomètres carrés. Bref, au pôle Nord, c'est quasiment du jamais vu depuis le début des relevés satellitaires en 1979.
Catherine Ritz, on commence à s'habituer à battre des records de température, mais qu'est-ce qui explique que la situation s'emballe plus fort en Arctique qu'ailleurs ?
Eh bien, il y a de toute façon une amplification des variations climatiques au niveau des pôles, et en particulier au niveau de l'Arctique, c'est-à-dire que quand on a un réchauffement global de 1 degré, on va avoir plus de réchauffement au niveau de l'Arctique. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis, un deuxième point, c'est qu'il y a, et c'est peut-être ceux qui participent à cette amplification, il y a des phénomènes qui permettent de s'emballer, et un certain nombre d'entre eux sont liés à la glace de mer, effectivement.
Alors, quand on parle d'emballement, on peut dire aussi cercle vicieux. Quels sont les phénomènes en jeu dans ce genre d'emballement ?
Eh bien, par exemple, quand pendant un été ou en fin d'automne, comme maintenant, la glace de mer disparaît, elle va se reformer pendant l'hiver, mais du coup, ça va être une glace relativement fine, facile à disperser, facile à fondre au printemps prochain ou à l'été prochain. Donc, c'est une espèce de mémoire de cette fonte en été qui va perdurer d'une année sur l'autre.
Est-ce qu'il existe un scénario où les glaces libres de l'Arctique ne disparaissent pas d'ici 50 ou 100 ans ?
Je ne sais pas exactement. Peut-être les scénarios où on limite la température à 1,5 degré, mais pas les scénarios moyens.
Oui, donc la plupart des scénarios sont quand même très pessimistes. Lorraine Lavocat, une question justement pour
Catherine
Ritz. Oui, bien
sûr, même avec un scénario de réchauffement à 2 degrés, il y a certains chercheurs qui disent que dès 2030, l'océan Arctique sera en fait libre de glace l'été, ouais, et que l'hiver, on n'aura plus qu'une toute petite fine couche de glace, de banquise. Est-ce que vous, Catherine Ritz, ça vous inquiète ? Quelles seraient les conséquences pour nous, en fait ?
Eh bien, en fait, la glace de mer joue pas mal de rôle dans le système climatique, en particulier parce que comme elle est couverte de neige, elle réfléchit la lumière, enfin l'énergie qui vient du soleil. Donc, en fait, moins il y a de glace de mer, plus l'océan se réchauffe dessous. C'est aussi un espèce de tampon entre l'atmosphère et l'océan. S'il n'y a pas de glace de mer, il y a beaucoup plus d'échanges entre l'atmosphère et l'océan, et ça peut changer. Ces deux choses à la fois, ça peut changer la circulation océanique, la circulation atmosphérique et faire pas mal de dégâts. En particulier, tout proche, il y a le Groenland qui est une masse de glace qui est elle aussi sensible aux variations climatiques et qui pourrait être en second en second affecté par la disparition de la glace de mer.
En tout cas, il y a évidemment, Catherine Ritz, des enjeux économiques absolument énormes hein, avec la libération de ce passage.
Oui, 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 bien sûr, parce que les passages du cargo entre l'Europe et, enfin, ou entre l'Europe et l'Asie, par exemple, est beaucoup plus rapide par le passage du Nord-Est.
D'où des économies, évidemment, de carburant pour tout le monde, hein. Et un gain de temps.
Après, est-ce que la société va se débrouiller pour faire que ça soit des économies de carburant, ou est-ce qu'elle va se débrouiller pour qu'il y ait plus d'échanges et donc que ça soit à dépense énergétique constante, je ne sais pas.
Vous en avez parlé. Est-ce que le passage des bateaux est une menace pour les glaces terrestres, cette fois-ci du Groenland, par exemple ?
Pour les ce que va faire le passage des bateaux, c'est éventuellement polluer un petit peu l'atmosphère arctique et éventuellement changer un petit peu l'albédo justement de la neige.
Qu'est-ce que c'est l'albédo ?
Alors l'albédo, c'est la capacité à réfléchir de la neige. S'il y a de la suie, par exemple, qui tombe sur de la neige, elle va devenir plus facile à fondre.
Je crois que Bernie Krauss voulait réagir à ce sujet, on l'écoute.
Est-ce que vous avez enregistré des sons en Arctique, justement, Bernie Krauss ? Est-ce que vous avez enregistré les changements climatiques, justement, aussi ?
Oui, c'est très important de savoir que le climat change tellement rapidement dans l'Arctique que lorsque nous y sommes allés en 2006, on ne pouvait pas atterrir sur la toundra. En beaucoup d'endroits où on pensait atterrir, c'était plus possible. C'était au début du mois de juin, parce que la toundra était déjà en train de fondre. Et par-dessus cela, une des choses que nous avons notées dans la vie sauvage en Alaska, c'est que c'est un endroit toujours extrêmement sauvage pour l'instant. On s'est rendu compte que les oiseaux qui n'étaient jamais très loin au nord de certaines villes du sud, eh bien, avaient migré vers le nord, la partie la plus au nord de l'Arctique. Et en fait, les Amérindiens qui habitent là-bas n'avaient même pas de nom pour ces oiseaux.
Allez, une dernière question, Axel.
Oui, pour Catherine Ritz. Est-ce que la disparition de la banquise peut avoir un impact sur les glaces terrestres et leur disparition, elles aussi ?
Eh bien, si la disparition de la banquise participe au réchauffement ou participe à l'amplification polaire, oui, parce que d'autant plus que ça se passe en été, et comme c'est l'été que les calottes polaires, enfin que le Groenland est le plus sensible, effectivement, ça pourrait augmenter la fonte à la surface du Groenland et mettre en danger le Groenland encore plus qu'il n'est dans les prévisions.
Juste une dernière question. Quelle quantité de glace et d'eau représente la glace contenue dans le Groenland ?
Alors, la glace totale contenue dans le Groenland, c'est l'équivalent de 6 ou 7 mètres de niveau des mers. Mais ça mettrait quand même des millénaires à fondre. Pour vous donner une idée, en ce moment, la fonte du Groenland, le déséquilibre du Groenland, c'est un peu moins d'un millimètre par an de montée du niveau des mers.
Est-ce qu'il y a un seuil de température au-delà duquel on est sûr que la fonte sera irrémédiable ?
Au-delà de, moi je dirais 5 degrés, les scientifiques ont une gamme en fait entre, mais certains disent 3 degrés, d'autres disent 5 degrés, mais je pense que 5 degrés, on commence déjà à tomber dans quelque chose qui pourrait être irréversible.
Merci en tout cas pour votre éclairage, même s'il est peu réjouissant, Catherine Ritz. Et puis Lorraine Lavocat, on retrouve évidemment ces informations sur le site reporter.net. Merci beaucoup à vous et Axel. À demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les chiens ont une mémoire épisodique, mais elle est très très courte. Des chercheurs hongrois pensent avoir démontré ce que les comportementalistes cherchent depuis des années, à savoir si nos amis les chiens se souviennent des événements vécus dans leur contexte. Et bien, grâce à un entraînement particulier de 17 chiens avec leur maître, ils estiment aujourd'hui que nos amis à quatre pattes peuvent contextualiser leurs souvenirs pendant un maximum d'une heure, après quoi toute mémoire épisodique s'efface. C'est une particularité qui nous fait souvent penser que le chien ne vit que dans l'instant présent, c'est donc presque vrai. Un pas technologique de plus vers des êtres vivants siliconés. Pour la première fois, des ingénieurs du laboratoire Caltech en Californie sont parvenus à créer un organisme vivant capable de métaboliser le silicone, une molécule inorganique formée de chaînes de silice et d'oxygène. Les protéines siliconées, appelées aussi organosilicones, sont très souvent utilisées dans l'industrie et pour l'instant n'étaient produites que par des réactions chimiques complexes et polluantes. Le fait que des êtres vivants soient capables de s'adapter à de nouveaux éléments est à la fois prometteur pour la bio-ingénierie, mais aussi une preuve fondamentale très forte que d'autres formes de vie seraient possibles au-delà du carbone. Le silicone est une des pistes envisagées par les exobiologistes, justement, pour la vie sur d'autres planètes. Mais où se trouve donc Thomas Pesquet pendant que l'astronaute français est dans l'ISS? De plus en plus de regards se lèvent la nuit pour voir passer la station au milieu des étoiles. Et bien, pour ne pas manquer le satellite géant, troisième objet le plus brillant observable depuis la Terre, Science et Avenir vous propose une sélection des applications pour téléphone qui localisent en temps réel la station. Avec ses 16 tours autour de la Terre par jour, de nombreuses occasions se présentent pour voir donc l'ISS. Un lien vers l'article et les applications est à voir sur la page Facebook de la Tête au Carré.